Mais tu sais ce qui m'emmerde là tout de suite? Est-ce qu'en entrant, tu as vu un panneau qui indiquait une décharge de nègre crevé?
Jimmy, tu sais qu'il y en a
aucun. Est-ce que t'as remarqué, oui ou non, devant chez moi, un écriteau disant décharge de nègre?
Non, pas du tout.
Et tu sais pourquoi tu l'as pas vu cet écriteau?
Pourquoi?
Parce qu'il y en a aucun! Et s'il y en a aucun, c'est que j'ai pas envie de planquer de cadavres de noirs!
Libre Radio, la radio qui ne fait pas de différence.
On y va. Est-ce que vous voulez rapidement présenter ce qui suit, c'est-à-dire la visite de la maison, la visite contemporaine de Xenop?
Cette visite, c'est une visite audio qui a été réalisée il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Et en fait, elle a été réalisée par deux habitants et aussi deux potes qui sont de Marseille à la base et qui sont venus, qui ont été hébergés ici l'espace d'une semaine. Et en fait, c'est un peu aussi ça, la maison, c'est un collectif d'habitat, mais c'est énormément de gens de passage. Et je pense que l'effervescence de ce lieu, il vient aussi en partie de ça, c'est que c'est des rencontres un peu fortuites comme ça, ou non, mais en tout cas, des gens qui viennent ici sur des courtes durées ou des plus longues durées, mais en tout cas, on trouvait marrant d'avoir leur regard sur notre maison, et voilà.
Et alors justement, petite question pour compléter ce que tu viens de dire, Chat, ces gens qui repartent, est-ce qu'ils vous disent qu'est-ce qui les a touchés particulièrement? Est-ce qu'ils disent, voilà, par rapport à Genève, on trouve que c'est un lieu tout à fait singulier, ou voilà, ce mode d'habitation nous a... Enfin, qu'est-ce qui en ressort?
Je pense que ce qui ressort le plus, c'est un peu une forme d'hospitalité. Mmh. Un peu un plaisir de partager des moments collectifs et la manière dont s'organisent les choses ici. Mmh. Je crois que c'est ce qui ressort le plus dans ce qui marque le plus les gens de passage, et voilà.
En général, ils reviennent en plus.
Ouais. En plus, ouais. Non, mais c'est intéressant de dire que voilà, on parle de choses collectives, de choses faites ensemble, alors qu'on sait bien que l'urbanité, pourtant, elle a beau rassembler beaucoup de gens, elle les isole également. Et donc de voir que c'est aussi quelque chose que vous arrivez à contrer de manière tout à fait naturelle et avec beaucoup d'égards pour tout le monde, je trouve que c'est assez intéressant de le noter. On y va avec le podcast et puis juste derrière, vous le commenterez. C'est parti.
Non, mais on tenait à ce podcast. Bon, il fonctionne pas, c'est pas très grave. Mais pour essayer de faire ressentir à nos auditeurs et auditrices ce qu'est cette maison quand on y arrive au niveau physique. Donc, il faut savoir que, comme décrit dans l'article, déjà en 1933, il y a une longue allée de marronniers, qu'on arrive devant une grande maison qui est un immense manoir. Et donc, quand on a occupé cette maison il y a 5 ans, on s'est retrouvé donc dans une ancienne station de zoologie, avec tout le côté glauque que ça peut contenir, mais surtout avec, en fait, des espaces pour créer tout ce qu'on voulait quasiment, et c'est je pense une des grandes caractéristiques de cette maison, ça a été justement d'investir le plus possible les moindres recoins que nous offrait cette maison, et d'y créer une multitude d'ateliers, de bibliothèques qui nous permettaient le plus d'activités possible, toujours donc avec l'idée de pratiquer les choses collectivement, d'échanger les savoirs aussi. À plusieurs moments, il y a eu soit des ateliers qui ouvraient pour transmettre le savoir qui était lié à son activité. Il y a eu des CCC, des cafés croissants connaissances, des dimanches matins sur des sujets qui étaient plus académiques, on peut dire, ou en tout cas théoriques. Voilà. Et du coup, quand on entre dans la maison, qui donc contient deux étages, mais surtout un énorme sous-sol, on peut faire l'inventaire de tout ce qui a été fait, c'est-à-dire une grande salle de sport, une salle polyvalente, un local de répétition de musique, il y avait une brasserie à l'époque, un atelier sérigraphie, un atelier métal, un atelier couture, une friperie, donc un magasin gratuit, un labo photo. Dans les annexes extérieures, il y a un atelier vélo qui a été fait, ainsi qu'un atelier bois. Et voilà, toutes ces activités-là, c'est aussi ça qu'on défend, je pense, dans cette maison-là, c'est-à-dire tout ce qu'on a réussi à mettre en place, répétons-le, de par nous-mêmes, de manière collective, et sans chercher à faire du profit sur ces choses-là. Là aussi, quand même dire que la pièce dans laquelle on est, du coup, c'est une bibliothèque qui est imposante, importante, qui contient énormément de livres, brochures qui concernent le militantisme, la politique, sur des sujets extrêmement variés, et qui est du coup l'InfoKiosque de Genève, une partie de la collection de l'InfoKiosque de Genève.
Serge. Une partie va être aussi importante, c'est que l'idée en fait, c'est pas d'avoir ces espaces communs qui soient utilisés uniquement par les habitantes et habitants, c'est aussi essayer de les partager en fait, avec ceux qui partagent nos idées, ceux qu'on rencontre aussi en fait, parfois dans les luttes sociales et politiques en fait, à Genève. Un souvenir par exemple qui est que moi j'aime beaucoup en fait, dans cette maison, c'était début 2014, en fait, quand la grève à Gate Gourmet avait pris fin et qu'on s'était beaucoup lié à ces gens-là, en fait, Gate Gourmet, donc était cette entreprise en fait de plateau repas, en fait, de l'aéroport de Genève, ouais. Qui avait mené une grève en fait, très très longue, très très difficile aussi parce qu'ils étaient qu'une dizaine à faire grève dans une entreprise de plus de 100 employés. Et on s'était beaucoup lié avec ces gens-là. Et lorsque en fait, il y a eu cet épilogue en fait, détestable en fait, dans leur fin de grève, en gros, en fait, la direction nationale en fait, du syndicat dont ils faisaient partie avait négocié dans leur dos un accord avec l'employeur et les autorités. Eh ben, en fait, on avait fait un grand banquet en fait, à Malagnou, etc., pour en fait, leur montrer en fait, aussi notre solidarité. Et eux-mêmes en fait, l'avaient utilisé aussi pour faire un dernier réunion, un débriefing. Ils avaient adopté en fait, ensemble un texte en fait, pour répondre de cette trahison en fait, syndicale qui avait eu lieu. Enfin, c'était en fait, de les amener ici, etc. Eux, ils étaient très touchés aussi. En fait, on avait aussi organisé avant un karaoké avec eux sur le piquet de grève, le piquet de grève à l'aéroport. Et en fait, progressivement, en fait, ce qui s'est aussi dit, c'est que, ok, on a envie d'expérimenter des autres rapports, essayer de construire quelque chose, en fait, positivement, etc., qui soit différent, en fait, de l'individualisme ambiant, de cet isolement aussi, en fait, qui est propre, en fait, au capitalisme d'aujourd'hui, mais aussi, en fait, essayer à chaque fois qu'on l'estimait possible, de ramener Malagnou en ville, en fait, essayer de
Ouais. Alors justement, l'occupation c'était en 2012, hein, c'est ça. C'était déjà vous ou est-ce que l'équipe, le groupe de personnes qui ont atterri ici, est-ce qu'elle a changé un petit peu ou est-ce qu'elle est la même depuis le départ ?
Non, il y a eu des évolutions. Il y a des gens qui sont là depuis le début. Enfin, ici, on est trois, je crois, à être là depuis le début. Et puis il y a aussi du mouvement, des gens qui sont partis, des gens qui sont arrivés, qui ont rejoint un peu cette histoire. Au tout début de la maison, on était vraiment beaucoup. Et puis, quand il s'est avéré qu'il fallait un peu qu'on fixe un groupe de personnes qui allaient habiter là, on s'est arrêté autour de 25 personnes. Donc, ça faisait pas mal de gens. Ça permettait aussi d'imaginer des modes d'habiter qui sont parfois un peu différents de ceux d'une colocation ou d'un appartement. Enfin, il y avait des partages de chambres, Voilà, c'était aussi une autre façon de réfléchir comment on vivait. Mmh. Et puis, dans le courant des négociations avec l'État, on s'est fait amputer d'une partie de la maison. Donc, il y a toute une partie qui suit le bâtiment de la pièce où on est là, qui est plus récente, qui a été rajoutée dans les années 60, où peut-être, éventuellement, potentiellement, il y aurait de l'amiante, c'est pas très sûr. Et du coup, dans nos négociations avec l'État, il a fallu fermer cette partie du bâtiment. Ce qui nous a permis d'avoir beaucoup moins de pièces vivables. D'accord. Donc voilà.
Alors ma question c'était aussi parce que je me demandais, comme vous avez dit que assez rapidement vous avez installé toutes ces expérimentations, tous ces ateliers, bah après c'est de les tenir parce qu'effectivement des fois les populations changent. Il se trouve que des ateliers métal ou quoi, ça nécessite quand même au moins une certaine comment dire, aisance avec le matériau, toutes ces choses-là. Et je me dis que peut-être quand les habitantes et habitants changent, finalement, peut-être que des choses disparaissent ou de nouvelles arrivent. De quelle manière cette dynamique s'est installée ici à Xanap?
Je pense qu'il y a aussi eu des changements dans les ateliers. Il y a des ateliers qui ont à un moment fonctionné, qui ont disparu, qui ont été remplacés par d'autres. Il y a eu un atelier cordonnerie à un moment, par exemple, qui a fonctionné un moment, puis qui après a été remplacé par la friperie, qui a elle-même changé de place, etc. Il y a des rythmes différents dans les ateliers. On n'est pas non plus tout seul à tenir ces ateliers, parce qu'il y a aussi... donc nous, on est cette maison-là, on est mal à nous sur cette parcelle, mais il y a aussi nos voisins juste à côté, la Tortue, oui, qui font partie de la Cigu. Et c'est des ateliers qu'on partage ensemble. Donc on est, nous et des personnes aussi de l'extérieur, à faire tourner ces ateliers, des fois plus ou moins bien, etc.
Comment est-ce que les personnes nouvellement arrivées arrivent-elles là? De quelle manière est-ce que c'est, voilà, par connaissance un petit peu, et puis quelqu'un voilà, est un problème de logement et puis du coup elle trouve ici? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui accompagne le fait qu'une personne survienne? Je veux dire, certaines affinités idéologiques, politiques, sociales, de fonctionnement, affinitaires.
Bon, je pense que les gens arrivent ici, on va pas nier que c'est pas de manière anodine en général, enfin, c'est juste qu'ils ont entendu parler du lieu d'une certaine manière, et que du coup ils y viennent pour demander s'ils peuvent y habiter. C'est vrai que nous on a toujours tenu dans ce collectif à pas être une colocation, du coup je pense que c'est important de le signifier. Ça veut dire qu'on a en effet beaucoup basé nos rencontres sur des questions d'affinité et sur la question de la vie quotidienne. Ça veut dire, est-ce que les gens sont prêts à partager l'entier de la nourriture avec tout le monde? Il faut dire que ça élimine déjà une partie des gens, parce que tout le monde n'est pas prêt ou prête à faire ça. Est-ce que les gens sont prêts à partager une chambre avec une autre personne? Aussi, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est donné à tout le monde. Et puis, par ailleurs, oui, je pense qu'il y a forcément... En tout cas, de mon point de vue, je pense qu'on peut dire que notre politique quotidienne est une forme politique, d'idées politiques, et que du coup, forcément, on est obligé d'y adhérer concrètement pour pouvoir habiter ici. C'est en fait... voilà.
Ouais. Ça sous-entend que la personne partage justement cet ensemble de valeurs et ses pratiques.
Tout à fait.
Très bien. Je me demandais concernant... Pardon, je t'ai interrompu.
Non.
Vous me faites signe ainsi. Vous avez un commentaire à faire, bien sûr. Je me posais la question sur... On a un petit peu ébauché la question tout à l'heure avec Josette lors du repas. Mais je me demandais comment est-ce que, avec tous les ateliers que vous faites, tout le fait que vous êtes quand même un certain nombre, combien êtes-vous actuellement à habiter ici? À la louche, hein, c'est juste...
Il y a 14 chambres d'habitation dans cette maison.
D'accord, ok, 14 chambres.
C'est le chiffre qui a été arrêté sur notre contrat de bail, déterminé par la police du feu à l'époque de la signature du contrat.
D'accord, donc ça fait quand même un certain nombre de personnes qu'il faut alimenter également. Donc comment se passe le ravitaillement et le financement du ravitaillement, de la récup, du friganisme, ou comment est-ce que vous faites? Et également pour toutes ces activités que vous proposez, les concerts, les cabarets, tous les ateliers métal et tout, ça suppose quand même des outils et des matériels qui ont quand même un coût. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que collectivement c'est compliqué, ou maintenant il y a quand même l'affinité fait que ça se passe? C'est Josette qui répond, qui commence, qui bouge.
Alors je pense que c'est des fonctionnements qui sont mis en place avec le temps et avec des discussions. Donc je pense que déjà basiquement on fonctionne beaucoup avec on fait de la récup, donc on a soit des arrangements, soit on va fouiller dans les poubelles pour trouver de la nourriture. Sinon on fonctionne aussi avec un pot commun, c'est-à-dire que l'argent pour acheter de la nourriture, il est mis en commun. Alors il y a eu effectivement des discussions sur est-ce que ce pot pouvait servir à acheter des produits issus de l'exploitation animale ou pas. Ça a été des grands questionnements à un moment, ça s'est peu à peu résolu, mais globalement en fait on achète presque pas de viande, etc. Du coup c'est aussi quelque chose qui s'est résolu,
qui
s'est
atténué en tout cas, voilà. Enfin voilà, c'est plus un objet de tension,
voilà. Mais en tout cas c'est aussi le fait d'avoir un pot collectif où on met de l'argent et où on s'organise ensemble pour aller chercher de la nourriture, etc. Ça fait partie aussi un peu de cette politique du quotidien qui nous tient à cœur et avec laquelle on essaye de s'organiser. Mmh. Et pour ce qui est des ateliers, ben, y a eu des apports de plein de gens, des gens qui ont collectivisé des outils qu'ils avaient déjà, des choses qui ont été achetées en commun, des choses qui ont été aussi récupérées. On a aussi pu faire des commandes des fois à des gens qui voulaient bien nous filer des rustines et des chambres à air de vélo pas trop chères.
Ouais. Voilà. Et les activités s'accompagnent-elles d'une buvette, d'un bar qui permettrait peut-être, alors après est-ce que vous faites l'usage du prix libre ou pas, mais qui peuvent partiellement financer des activités, comment ça se passe de ce côté-là?
Je reviens un peu en arrière sur ce que tu posais comme question par rapport à l'organisation, juste rajouter aussi que le collectif d'habitation est distinct du collectif des collectifs d'organisation des ateliers, et ça je pense c'est un truc important à noter, ça veut dire qu'en fait à l'occupation de cette maison, on a défini quels étaient les espaces dédiés à la vie quotidienne et du coup dédiés au collectif d'habitation, et quels étaient les espaces dédiés à d'autres personnes qui voudraient investir cette maison, mais pas en termes d'habitants, mais en termes d'activité. Et ouais. Du coup, ça, je pense, c'est un truc qu'on tient depuis très longtemps et qui est, à mon avis, en tout cas, extrêmement assez exemplaire d'une certaine manière. Et en fait, le collectif d'habitation n'a pas préemption. Il y a des règles de l'atelier métal. Tout le monde s'y soustrait de la même manière que cette personne vienne de l'extérieur de la maison ou de l'intérieur de la maison.
D'accord. Donc, certains usages peuvent être distincts selon que l'on soit habitante ou habitant et usager d'un atelier. C'est ça que tu veux dire?
Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les étages de la maison ont été dédiés à l'habitation. Le reste a été mis à disposition d'un collectif qu'on pourrait dire plus large de Malagnou, qui comprend évidemment les personnes qui y habitent, mais les voisines, comme ça a été dit, plus des personnes qui viennent de la ville, avec l'envie, voilà, 5 personnes disent, nous, on veut ouvrir un atelier vélo, et ils s'organisent, ils font leur atelier vélo. Pour ce qui est du financement, on n'a jamais fait de buvette ou de quoi que ce soit pour les ateliers. On a toujours fonctionné sur la gratuité ou sur des pots prix libres que les usagers et usagères avaient à disposition au moment où ils utilisaient l'atelier pour le payer.
La première ressource, quand même, ça reste l'huile de coude. En fait, je pense par exemple que le dôme qui avait été amené sur la ZAD en 2013, ça en fait, avait surtout été fait avec des matériaux de récup, c'est ça, non?
Bon, ouais, on avait acheté une partie du bois, mais voilà, c'était des investissements légers, on peut dire, en l'occurrence, de l'ordre de 150 francs. Alors voilà, ça se trouve comme pour des projets concrets, de toute façon.
Et qui avait aussi montré que Malagnou était vraiment en avance sur les modes architecturales, c'est ça? Parce que construction d'un dôme géodésique, ça...
Carrément,
oui, du coup, on avait construit ce dôme géodésique.
Mais on n'est pas hippie, attention.
Tiens à préciser. Mais on aime beaucoup bâtir, ça je pense qu'on peut le dire, on aime beaucoup construire, on l'a fait. Je veux dire, cette maison, ce collectif est aussi beaucoup rencontré autour de ça, je pense. Et pour ce qui est du dôme géodésique, on peut aussi ajouter l'anecdote quand même que cette, en effet, qu'on était des précurseurs, à mon avis, à cette époque-là, à tel point que quand on l'a bâti pour l'essayer sur le parking devant chez nous, les voisins ont pris des photos pour les envoyer à l'État, pensant probablement que c'était un ovni ou une arme ou je ne sais quoi d'autre. Mais du coup, on l'a quand même ressorti. Mais ça, on pourra peut-être parler plus tard de tous les fantasmes qui a alimenté cette maison du point de vue des
voisins.
Des voisins, des autorités et tout ça.
Moi, j'aimerais juste rajouter aussi, ça va un peu à la suite de ça, c'est aussi tout l'apprentissage qu'a permis cette maison à plein niveau, mais notamment au niveau technique. Et en fait, quand on arrive dans un énorme bâtiment rempli de laboratoires, de machines bizarres et pas du tout propres à l'habitation, fatalement, on apprend à utiliser une meuleuse, une perceuse, et aussi parce qu'en fait, c'est un choix de faire que tout le monde puisse apprendre à utiliser ces outils. Et pour moi, c'est aussi quelque chose de très important de cette maison.
Et puis effectivement, le fait de pouvoir travailler toutes et tous sur plein de plans différents, ça permet là également de s'en tirer en dehors des circuits de vente et d'achat.
Forcément, être que souvent des constructions de ce type-là, en fait, se font pas non plus sans recueillir quelques adversités. Il y a eu en fait un vrai tournant en fait début 2013 lorsque la maison, en fait, après 8 mois d'occupation, son contrat de prêt à usage avec l'université de Genève, qui était encore propriétaire des lieux, l'université revend pour plusieurs millions en fait cette parcelle à l'État de Genève. L'État de Genève, du coup, devient notre nouveau bailleur, notre nouveau propriétaire. Et au départ, en fait, ils sont très, très réticents à nous faire un contrat. Et le montage qu'on va écouter maintenant, c'est quelque chose en fait, d'un peu parodique. Ils avaient aussi pour habitude en fait, d'envoyer des policiers en civil sur la parcelle, venir fouiner, essayer de rentrer dans nos espaces intérieurs. C'est quelque chose qui, à la fois, qui nous amusait, mais qui nous agaçait aussi particulièrement. On a décidé de prendre ça à la rigolade, en fait, dans ce petit numéro, là encore, de cabaret, où on imagine, en fait, petite parodie en forme d'X-Files, etc., sur des policiers qui sont à la recherche des célèbres anarchistes de Malagnou. Voilà, donc,
On y va.
On a réussi à rentrer.
J'espère qu'on va trouver des preuves cette fois, Mulder.
Scully, cette fois j'ai la certitude d'avoir la certitude.
Tu as déjà tenu ce discours mirobolant, Mulder.
Non mais regarde, Scully, regarde. Cette fois toutes les cordes concordent.
C'est une grenouille, Mulder.
Non, Scully, non, non. C'est le même signe que j'ai trouvé dans la chambre de mon frère quelques jours avant qu'il disparaisse.
Mais tu délires, Mulder.
Mais Scully, tu m'as déjà dit ça la dernière fois avec les extraterrestres.
Écoute, il faut absolument qu'on reste professionnel et concret sur cette enquête.
Écoute, Scully, écoute. Et surtout, regarde. Regarde. Autrefois, dans ce bâtiment, il y avait des puits de lumière qui éclairaient les salles. Ils les ont bouchés, ils préfèrent se tapir dans l'ombre. C'est bien la preuve que cette fois, nous sommes dans le temple de cette secte qui ne veut pas donner son nom.
Mais voyons, c'est scientifiquement prouvé, Mulder. Les anarchistes n'existent pas.
Scully, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Mais je prouverai le contraire.
Mais, Mulder, qu'est-ce que tu fous encore, Mulder?
Chut, Scully. Tais-toi, tais-toi. Ils sont juste à côté. Tiens, cache-toi avec moi.
Merde, ça fait 4 heures qu'on discute, je me demande vraiment où va ce putain de collectif.
Attends ton cul.
Mais là, je trouve que tu manques d'empathie. Je pense qu'il faudrait faire un tour de table.
Ouais, c'est bon, j'arrête de parler, hein.
Arrête, c'est pas ton tour de parole.
Ça va pas fonctionner comme ça, faudrait peut-être organiser une réu météo. Moi j'ai trop parlé, qui c'est qui commence?
Moi je trouve ça pas horizontal, il y a que les cons qui parlent ce soir.
Moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais j'aimerais bien savoir les exigences qu'on a envers les cons.
Ouais mais quand tu dis les cons, est-ce que tu t'inclus dedans?
Moi je suis pour qu'on arrête de dire les cons et qu'on dise des noms.
S'il y a des personnes qui veulent s'exprimer comme ça, elles ont le droit, hein.
Bah, si jamais, moi, j'ai fait des pâtes, alors c'est très con, hein. Oh,
c'est toujours à manger pendant qu'on fait des réunions. C'est pas pour se mettre au bruit, tes casseroles.
Non, mais on peut pas manger maintenant, là. Il reste encore le point sur la destruction des relations de pouvoir dans le collectif.
Après, moi, j'ai encore 3 divers et une demande de dépanne d'un mec avec un chien. Ils ont peut-être la gale. Bon, moi j'en ai marre, je me casse. Demain il y a le CCC sur Foucault et moi je veux bien être là.
Ouais, bah nous pareil alors.
T'as entendu Scully? T'as compris quelque chose?
Mais c'est quoi le CCC, mon
gars? Ah, Scully, ta naïveté fait peine à voir. Les CCC, c'est les cellules communistes combattantes. Mais par contre, je me demande bien ce que Jean-Pierre Foucault vient foutre là-dedans.
Putain, y'a plus personne, c'est encore moi qui vais me taper la vaisselle.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent. que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles.